Radio Kapi.
Grâce à Mzati Masandi pour le journal.
Au sommaire de ce journal, à Ituri et au Nord Kivu, la MONUSCO intensifie ses actions pour protéger les civils. Patrouilles, bases mobiles et activités communautaires sont déployées pour renforcer la sécurité dans plusieurs zones sensibles. À Kananga, au Kasaï central, un homme soupçonné d'avoir enlevé un bébé de 3 mois a été arrêté par la police après l'alerte donnée par la population. Les organisations de défense des droits de l'enfant appellent à renforcer les mesures de protection. Dans la Tchopo, le président de l'Assemblée provinciale consulte les différentes forces vives de la province. Au cœur des échanges, les retombées des accords de Washington, l'insécurité urbaine et la situation politique locale. Mateus Kanga Londimo est l'invité de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. La MONUSCO poursuit ses opérations pour sécuriser les populations et renforcer sa présence dans certaines zones sensibles de l'Ituri et du Nord Kivu. Patrouilles, déploiement des bases mobiles, mais aussi actions civilo-militaires et communautaires qui se multiplient pour protéger les civils et appuyer les communautés locales. Les explications du colonel Charles Idjoua, porte-parole militaire de la MONUSCO, au micro de Martial Papi Mukeba.
En Ituri, le 7 mars 2026, le contingent bangladais de la MONUSCO a déployé une base opérationnelle mobile à Djambi, à une dizaine de kilomètres au sud-est de Roho, pour renforcer la sécurité et favoriser la coopération avec les autorités locales afin de limiter les activités des groupes armés. Toujours en Ituri, à Tchabi, le contingent a patrouillé dans les villages de Bouzio et Bourachi pour protéger les civils et suivre l'évolution de la situation sécuritaire. Dans cette même province, plusieurs actions communautaires ont été menées. Le 8 mars 2026, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, des échanges et activités sportives ont eu lieu à Djina, Bayo, Tchabi, Komanda, Bogoro et Drodro pour promouvoir les droits et l'autonomisation des femmes. Au Nord Kivu, le 11 mars 2026, les équipes d'intervention de la MONUSCO sont rapidement intervenues pour maîtriser un incendie à l'aéroport de Mavivi, principal point d'entrée aérien de Beni. Le sinistre a été contenu et aucune victime n'a été signalée.
Et puis, clôture hier jeudi à Kolwezi dans la province du Lualaba de la 9e réunion de la commission tripartite entre la RDC, la Zambie et les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés ACR. Pendant 3 jours, les participants ont réfléchi sur les solutions durables à apporter pour les 72 000 réfugiés congolais vivant en Zambie, notamment le redémarrage des rapatriements volontaires de ces réfugiés en RDC. On écoute les représentants du ACR en RDC, Dr Pierre Atchom, au micro de Paulin Munanga.
L'objet de cette réunion était de réfléchir ensemble pour voir comment est-ce que nous pouvons redémarrer le rapatriement volontaire des réfugiés congolais qui se trouvent en Zambie. C'est un rapatriement qui a commencé il y a longtemps, mais il a été suspendu en 2025 pour des problèmes purement techniques. Donc, il a fallu que les trois parties, en l'occurrence le HCR, la RDC et la Zambie, puissent s'asseoir pour voir dans quelle mesure on pourrait lever ces obstacles. Et nous avons pu parvenir à une résolution. Nous avons pu élaborer un rapport sur le groupe de travail technique, le rapport qui est issu de ce groupe de travail. Ensuite, nous avons mis en place un chronogramme et enfin, il y a un communiqué qui a été signé. Dans le communiqué, on arrive à la conclusion qu'il faut redémarrer les activités de rapatriement. Et donc, nous nous sommes convenus que nous allons laisser un peu le temps aux acteurs sur le terrain de mieux planifier le début de ce rapatriement. Donc, le mois de mai a été retenu en permettant donc aux collègues qui sont sur le terrain de faire le nécessaire.
Comme dit au sommaire, un présumé kidnappeur d'enfants a été arrêté ce jeudi matin à Kananga, au Kasaï central. Selon plusieurs sources, l'homme a été interpellé près de l'hôpital Pax alors qu'il transportait dans un sac de marché un bébé de 3 mois qu'il venait d'emporter. Alerté par la population, la police est intervenue rapidement pour maîtriser le suspect. Face à cette situation, des structures de défense des droits des enfants au Kasaï central invitent les parents ainsi que l'État à renforcer la protection des enfants. Plus de détails avec André Katendengala Moloumé.
La mère de l'enfant explique qu'elle participait aux travaux d'assainissement de la ville avec d'autres femmes au quartier Kamaï au niveau de l'espace El Michel où elle avait laissé son bébé endormi à l'ombre. C'est à ce moment-là que les présumés ravisseurs auraient enlevé l'enfant. Selon le médecin de l'hôpital de la police, les nourrissons est sain et sauf. Mais face à cette recrudescence des cas de kidnapping au Kasaï central, Jean-Malice Lungala, coordonnateur provincial de la Ligue de la Zone Afrique, pour la défense des droits des enfants et élèves, l'ISADEL appelle les parents ainsi que les autorités à redoubler des vigilances et à garantir la sécurité des enfants.
Nous allons profiter de votre micro pour sensibiliser les parents à veiller à l'encadrement des enfants, que ce soit sur le chemin de l'école, que ce soit sur le chemin des marchés ou n'importe où l'enfant peut se retrouver seul. L'État congolais, lui, il a la charge de sécuriser toute la population entière, y compris les enfants.
Il y a quelques jours, une étudiante de l'ISTEM Kananga était retrouvée à la rivière Lulua après avoir été kidnappée avec deux de ses amis alors qu'elle revenait de cours. Elle avait réussi à s'échapper, mais ses deux amis, amenés par leurs ravisseurs, sont toujours introuvables. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Kapi.
Pendant ce temps, à Ituri, les aires de santé des Rabou et Kambala dans le territoire de Mahagi ont bénéficié hier d'un don de médicaments et de matériels médicaux de l'UNICEF à travers le programme de promotion des soins de santé primaire PPSSP. Selon le responsable de ce projet, cette assistance vise à appuyer la gratuité des soins en faveur des populations déplacées et autochtones de plusieurs villages de la région. Martial Kizabiamungu.
Cette gratuité concerne toutes les pathologies, y compris les cas compliqués qui seront référés vers le centre de santé de référence d'Amé et l'hôpital général de référence de Kambala. Selon José Kamandia, responsable du projet au sein de l'ONG PPSSP, ce programme prend également en charge les patients souffrant de malnutrition.
Nous arrivons souvent dans des zones où les autres n'arrivent pas. Ça, c'est pour témoigner notre détermination, comment venir en aide à la population vulnérable.
Une assistance qui répond à un besoin urgent d'accès aux soins de santé de qualité pour les populations locales, reconnaît le médecin chef des zones de santé de Kambala. Il plaide cependant pour un soutien continu à cette zone de santé qu'il qualifie de presque enclavée.
Nous sommes une zone de santé qui n'avons pas reçu vraiment d'appui pendant une très très longue période. Auparavant, il y avait la notion de l'insécurité, mais grâce aux efforts des autorités politico-administratives, il y a une amélioration de la situation sécuritaire.
Notons que cette assistance en médicaments et matériels médicaux permettra la prise en charge gratuite des malades pendant une période de 7 semaines. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Sous le thème « Vieillir en bonne santé », une séance de sensibilisation a réuni ce jeudi à Kinshasa des médecins et infirmiers de la clinique Ngaliema. Cette campagne a porté sur la lutte contre les maladies liées au vieillissement. Initiée par l'association Gemenu, en collaboration avec la clinique Ngaliema, elle a rassemblé plusieurs membres du corps médical afin de réfléchir aux moyens de briser l'isolement des personnes âgées et de garantir une vieillesse digne aux mamans et aux grand-mères. Le compte rendu de Blaise Shindani Kambala, rendu par Benjamin Mudumbi.
Selon le docteur Caroline Mukako, l'un des objectifs de cette initiative est également de promouvoir la construction d'infrastructures hospitalières dédiées à la prise en charge des maladies liées au vieillissement, tout en renforçant la formation des médecins et infirmiers dans ces domaines. Il a insisté sur l'importance de la prise en charge médicale des personnes du troisième âge, explique Caroline Mukako, médecin spécialiste en gériatrie, qui parle aussi des autres projets liés à cette même initiative.
En train de vulgariser la gériatrie, donc la prise en charge des personnes âgées, pour qu'ils puissent vieillir en bonne santé, qu'ils puissent avoir une longévité, pas une longévité où il y a des maladies, non.
Pour sa part, Richard Mvoila, médecin en chef de la clinique Ngaliema, a salué cette initiative qui, selon lui, met en lumière une problématique de santé souvent négligée.
Nos grands-mères, ces femmes qui ont consacré leur vie à bâtir nos familles et nos communautés, méritent aujourd'hui que nous leur rendons justice.
Cette campagne de sensibilisation se poursuivra dans d'autres structures sanitaires, notamment à l'hôpital du Cinquantenaire ce vendredi. L'initiative s'inscrit également dans le cadre des activités marquant la célébration de la Journée internationale des droits des femmes.
Restons à Kinshasa, où dans certains quartiers de la commune de Kasavubu, l'eau potable devient de plus en plus difficile à trouver. Bidon jaune à la main pour les uns, bassin sur la tête pour les autres, Les habitants passent parfois plusieurs heures à la recherche de cette denrée essentielle. Joyce Masanka nous en parle dans ce reportage.
Depuis plusieurs jours, l'eau ne coule plus régulièrement au robinet. Les habitants sont obligés de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau potable. Chaque jour, femmes, hommes et enfants font la queue devant les rares points d'eau encore disponibles. Un habitant décrit les difficultés rencontrées par la population.
Nous sommes dans la commune de Kassavubu. Ici, on n'a pas d'eau. Depuis le mois de janvier jusqu'aujourd'hui, nous faisons recours au forage qui coûte 500 francs par bidon. Surtout sur l'avenue Lokolama, nous n'avons pas d'eau. Nous souffrons beaucoup.
Cette pénurie complique le quotidien de nouveaux ménages. Certains habitants affirment qu'ils sont parfois obligés d'acheter de l'eau auprès des revendeurs. Un autre habitant lance un appel aux autorités.
Depuis plusieurs jours ici à Kassavubu, l'eau ne coule pas. Nous sommes obligés d'aller acheter de l'eau auprès des revendeurs, ce qui nous coûte énormément. Et nous demandons aux autorités compétentes de pouvoir nous venir en aide.
Les habitants de la commune de Kassavubu, confrontés à ces problèmes, espèrent une solution rapide pour rétablir l'approvisionnement en eau potable dans cette partie de la ville. Notez que nous n'avons pas pu avoir la réaction de la régie des eaux à ces sujets.
Par ailleurs, au Nord Kivu, être femme, vivre avec un handicap, mais refuser la fatalité, voilà le message lancé ce jeudi à Goma par les membres de l'association des handicapés physiques Tungane. Rassemblés au stade paralympique, ils ont dénoncé l'exclusion sociale dont ils disent être victimes et qui les empêche de s'épanouir. À travers un match mixte de handi-basket et une note de plaidoyer, ces personnes vivant avec handicap réclament une justice réelle et un accès égal aux opportunités. Un reportage signé Rosalie Zawadi.
Au stade paralympique de Goma, les femmes athlètes sont très actives à côté des hommes. Pour Aline Karambou, cette mixité sur le terrain incarne la force et la place que ces femmes réclament dans la communauté.
Lorsque nous jouons avec les hommes, ça reflète l'égalité. J'ai été libre vraiment, jouer sans peur, vraiment je me sens à l'aise.
Amputée il y a 3 ans, Aline Karambou a connu ce silence lourd qui suit la maladie. Mais au sein de cette association, elle a trouvé non seulement les soutiens, mais aussi la dignité. Aujourd'hui, Aline regarde l'avenir avec espoir.
La situation était tellement compliquée de comprendre. J'ai été accompagnée par le CICR. Ils m'ont donné la prothèse. Être handicapé, ce n'est pas obstacle. Parce que être handicapé, ce n'est pas à dire que on ne peut rien faire, on doit se développer.
Sur le terrain, comme dans la vie, ces femmes vivant avec handicap avancent. Elles invitent la communauté à prendre en compte leurs compétences plutôt que de s'arrêter sur leurs différences. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Tous les camions à conteneurs et les châssis modifiés localement dont le tonnage dépasse les normes autorisées sont désormais interdits de circuler sur les routes actuellement en construction dans la province du Nord Kivu. Cette décision figure dans une note circulaire rendue publique le 9 mars par l'autorité provinciale. Une mesure accueillie favorablement par l'association des chauffeurs du Congo ASECO qui estime qu'elle contribuera à protéger les infrastructures routières en chantier. De son côté, la Fédération des entreprises du Congo FEC dit prendre acte de cette décision sans plus de commentaires. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Cette décision s'inscrit dans la ligne de résolution issue de la réunion de pilotage des travaux de construction et de modernisation des routes Mpondo et Kassindi Beni Butembo, 134 km, et Bunagana Rutshuru Goma, 89 km. La rencontre avait eu lieu le 28 février 2026 à Kampala, en Ouganda. L'interdiction vise particulièrement les camions communément appelés box body, dont les conteneurs ont été modifiés de manière artisanale pour transporter plus de marchandises. Certains de ces conteneurs atteignent 25 voire 30 mètres, un gabarit hors norme. Selon les autorités provinciales, ces véhicules surchargés sont à l'origine de la dégradation de plusieurs ponts, notamment sur les axes Kassindi Beni Butembo et Kassindi Beni Mangina. Pour l'association des chauffeurs du Congo, cette décision est une avancée majeure, non seulement pour la préservation des routes en construction, mais aussi pour la réduction des risques d'accidents. De son côté, la Fédération des entreprises du Congo FEC Antenne de Beni dit s'abstenir de tout commentaire. Elle promet toutefois de sensibiliser les opérateurs économiques afin de s'y conformer. La note précise afin qu'un délai de 30 jours est accordé aux propriétaires de ces véhicules à 4 essieux pour les retirer complètement de la circulation. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
De Dernier jour officiel des campagnes, c'est 13 mars au Congo-Brazzaville, avant la présidentielle du 15 mars. Le chef de l'État brigue un cinquième mandat consécutif après déjà 41 années cumulées au pouvoir, tandis qu'une partie des acteurs politiques et de la société civile dénonce un scrutin sans réelle compétition ni transparence. Parmi les arguments mobilisés par les défenseurs de Denis Sassou Nguesso, stabilité et sécurité au niveau national comme dans les centres urbains.
L'invité.
Le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo a initié depuis environ une semaine des consultations avec les différentes couches socio-professionnelles. Au menu des échanges, les retombées des accords de Washington pour la Tchopo, l'insécurité urbaine et le climat politique provincial. Pour en savoir plus, nous recevons Mathéus Kangalondimo, président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo. Il s'entretient avec Jacques Mkonkole.
Monsieur le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui a motivé l'ouverture des consultations à ce moment précis de la législature? Est-ce une réponse à une crise de confiance ou une volonté de rupture dans la gouvernance?
Bon, je dirais plutôt que c'est une volonté de rupture dans la gouvernance, mais aussi au vu des enjeux de l'heure. Vous savez que nous sommes pendant la période de vacances parlementaires. Il est quand même de notre devoir, nous, comme députés provinciaux, de pouvoir aussi nous consulter avec la population pour l'écouter et que la population aussi sache ce que nous sommes en train de faire ici. Et surtout, en rapport avec les enjeux sécuritaires, c'est dans cette optique-là que nous voulions quand même échanger avec la population pour la mettre au parfum de l'actualité.
Quelle année l'objectif est-ce pour dresser un état des lieux afin d'orienter l'action de l'exécutif provincial?
Sûrement que ça aura un impact par rapport à nos actions, par rapport à ce que nous allons recommander comme priorité à l'exécutif provincial au vu de ce que nous venons de recueillir. Mais surtout pour nous, c'est une occasion pour nous de pouvoir, nous sommes en train de nous attirer précisément la vulgarisation de l'accord de Washington, l'accord de paix de Washington, que nous voulons faire comprendre à la population parce qu'il y a beaucoup de spéculations là-dessus. Et aussi par rapport à ces partenaires stratégiques entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, où il y a eu beaucoup d'encre et salive là-dessus, il fallait que nous puissions expliquer à notre population, mais aussi profiter de l'occasion pour l'appeler à la vigilance. Après cette attaque des drones kamikazes dont la ville de Kisangani a été victime de la part des terroristes de l'AFC-M23.
Vous voulez donc que la population puisse s'impliquer afin de participer activement dans la lutte contre la sécurité?
Bien sûr, bien sûr. Il y a des analyses par rapport aux drones qui nous attaquent ici. Les premières analyses donnent l'impression que ça vient de la Tchopo localement. C'est-à-dire qu'on serait infiltré par l'ennemi. Et où se cache alors cet ennemi-là? Comment le savoir? S'il se cache dans un de nos champs, s'il se cache dans une des concessions périphériques, s'il se cache dans un village, s'il se cache au milieu de nous, il faudrait que la population puisse être informée. Envie de pouvoir alerter cas où on verrait des personnes suspectes dans les milieux qui sont les nôtres. Mais aussi, vous savez que tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt de notre peuple. Par exemple, il faut faire comprendre à la population, grâce à la collaboration avec les États-Unis aujourd'hui, qui est le chef de l'État ici, que Walikale, par exemple, Kisangani a été sauvé parce que Walikale était déjà prise. Nous étions à 444 km. Kisangani, c'est parmi les plus grands bénéficiaires de la collaboration entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Donc ce n'est que normal que nous puissions faire comprendre cela la population, au vu même de tout ce qui nous guettait ici comme danger et qui aujourd'hui nous met en soi à l'abri malgré les actes isolés de la part des terroristes de l'AFC-M23.
Il y a aussi le problème de sécurité qui est soulevé par la population au niveau de la ville de Kisangani. Qu'en pensez-vous?
Oui, c'est vraiment un sérieux problème. Nous croyons que la population a raison parce que nous-mêmes aussi, nous avons eu à dénoncer cela à plusieurs reprises et nous pensons qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir. Beaucoup d'efforts à fournir de la part de notre exécutif provincial, mais aussi de la part de l'exécutif urbain et de toutes les autorités qui sont censées travailler de mèche avec le service de sécurité pour endiguer cette chose. Parce que vous savez que la ville de Kisangani, c'est l'une des villes les plus pacifiques où il faisait beau vivre. Malheureusement, depuis un certain moment, on a perdu les repères et nous sommes en train de devenir comme les autres villes. D'où il y a l'afflux des personnes déplacées qui viennent de l'Est. Il faudra contrôler tout ça. Mais aussi, vous savez, le banditisme urbain que nous pensons aussi être entretenu par nous, les politiques, parce que c'est nous qui intervenons par moment pour faire libérer des personnes arrêtées et tout comme ça.
Président, dans quelle mesure ces consultations peuvent orienter l'agenda législatif de l'Assemblée provinciale? Doit-on s'attendre à des édits spécifiques issus de ces doléances?
Oui, certainement, parce que nous allons tenir compte des priorités, les besoins exprimés par la population. Et ce que nous allons faire, ça doit être en phase avec les besoins de la population. Par exemple, là, on a parlé des tracasseries. Je crois que nous avions voté un édit sur la réglementation des barrières au niveau de la province de la Tchopo. Ce sera l'occasion pour nous de pousser encore l'exécutif de prendre aussi un arrêté pour les mesures d'accompagnement et les modalités pratiques de sa mise en œuvre. Et donc, nous allons inscrire les questions soulevées par la population, leurs priorités dans notre agenda de la session de mars 2026.
Monsieur le Président, le bureau de l'Assemblée provinciale a donné le feu vert au procureur général près de la Cour de cassation pour entendre les gouverneurs de province. Pourquoi ne pas attendre le retour des députés provinciaux des vacances parlementaires pour soumettre cette question à la plénière?
Pendant la période de vacances parlementaires, c'est le bureau qui statue en cas de demande d'autorisation d'instruction et contre un député, contre un gouverneur, contre un ministre. Et c'est pas la première fois.
Quel message adressez-vous à la population?
C'est un message de paix, de pouvoir soutenir le chef de l'État dans ses efforts diplomatiques et aussi un appel à la vigilance pour surveiller autour de nous, mais aussi à la population de continuer de croire à leurs élus que nous sommes, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt de notre province.
Monsieur le Président, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Notre invité, le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, répondait aux questions de Jacques Mkonkole. Par ici s'achève ce journal mis en onde par Alain Goy et Pierre Diassinois. La coordination assurée par Jude Mister Bilanda et Richard Junior Kamunga. À la présentation, grâce à Mzati Masanzi. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet www.radiokapi.net. Merci.